partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Au Palais des Congrès à Paris se sont tenues en juillet 2006 les journées de la coopération internationale et du développement organisées par le ministère des Affaires étrangères. Y étaient représentés tous les établissements culturels français à l'étranger, un réseau sans équivalent dans le monde par son extension et par sa densité. Ce réseau rassemble autour d'une même ambition instituts français, centres culturels et alliances françaises qui ont pour mission de promouvoir la langue et la culture française, mais aussi de servir les cultures des pays partenaires autour du dorénavant célèbre Dialogue des cultures. Canal Académie s'est rendu à cette manifestation, notamment pour faire une série d'entretiens avec les représentants de l'Alliance française dans différents pays. Des cartes postales du réseau mondial des Alliances françaises pour mieux faire connaître les activités de ces opérateurs de la politique culturelle internationale de la France. Notre voyage nous mène aujourd'hui au Mexique. Et nous avons le plaisir de recevoir Yves Kerouas, directeur général adjoint des Alliances françaises au Mexique. Monsieur Kerouas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint des Alliances françaises au Mexique, comme je viens de le dire, mais vous êtes également directeur de l'Alliance française à Mexico City.
De la ville de Mexico, oui.
C'est-à-dire vous avez une double casquette.
C'est exact, c'est-à-dire que l'Alliance française, la plus grande Alliance française au Mexique, se trouve donc à Mexico City, comme on dit, ou dans la ville de Mexico, ou ce qu'on appelle communément au Mexique le district fédéral.
Oui.
C'est-à-dire donc cette mégapole de 22 millions d'habitants,
22
qui est
millions.
La capitale mexicaine. Oui.
Mais vous avez quand même la chance d'exercer vos activités dans un des pays les plus légendaires au monde, qui a ses racines dans les civilisations précolombiennes, depuis les Olmèques, les Mayas, les Aztèques. Et on trouve encore aujourd'hui énormément de vestiges, des sites archéologiques uniques et parmi les plus impressionnants. J'imagine que tout le Mexique aujourd'hui en est encore imprégné de ces cultures précolombiennes. Pourriez-vous nous faire peut-être une petite visite guidée de ces merveilleux sites?
Oui, sans être un spécialiste de la question, il est assez étonnant et c'est ce qui m'a étonné. Je suis au Mexique depuis tout juste 9 mois, mais ce qui est très impressionnant au Mexique, c'est de voir la présence encore très très forte de ces civilisations précolombiennes, et non pas seulement parce qu'elles sont physiquement présentes par les sites archéologiques très nombreux, mais aussi parce que la population indigène, on l'appelle indigène, nous on l'appellerait indienne, mais en espagnol on l'appelle indigène.
Oui.
Donc je me permettrai d'utiliser ce terme qui en français est quelquefois un
c'est
petit peu ambigu.
Les autochtones, oui.
Donc c'est une présence encore très très forte, aussi bien au niveau donc physique que culturel, et dans les comportements évidemment aussi. Les grands sites archéologiques se trouvent sur les hauts plateaux donc de la République mexicaine et dans le sud-est et sud-ouest principalement, juste à quelques kilomètres, c'est-à-dire je crois même pas 50 kilomètres de Mexico, il y a Teotihuacan qui est un des grands sites archéologiques du Mexique, avec des pyramides, deux très très belles pyramides qui sont celles du Soleil et de la Lune.
Ces fameux temples
à étage. Ressemblent étrangement, et là je ne cherche à faire aucun parallèle, étrangement donc aux pyramides égyptiennes. Sauf que la différence des pyramides égyptiennes, ce sont des pyramides à étage.
Oui.
Donc on voit très très nettement donc les différents étages de ces pyramides qui ont été construites à usage religieux.
Oui, qui étaient des
donc,
temples.
Et qui faisaient partie d'ensembles religieux, et c'était des temples dédiés donc en l'occurrence là au soleil et à la lune. Et après on trouve les grands sites mayas donc du sud, est et ouest du Mexique, hein, c'est-à-dire au Yucatan et aussi dans l'état de Chiapas. Dans l'état de Chiapas, il y a le très beau site de Palenque, qui est internationalement connu.
Oui.
Et puis, lorsque l'on va au Yucatan, il y en a plusieurs. Moi, bon, celui que je préfère est Chichen Itza. Mais bon, chacun peut choisir, car, et c'est ce qui est assez étonnant, c'est que, c'est ce que me disaient des chercheurs donc, français qui sont basés au Mexique et donc qui travaille au Mexique, c'est que on est très 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 loin d'avoir épuisé les ressources archéologiques du Mexique. Je m'explique, les fouilles qui ont été faites correspondent à un minimum de ce qui est encore à découvrir, hein. Et
ah
on
bon.
Sait que chaque site archéologique nouveau, découvert, donc travaillé, amène à chaque fois des éléments nouveaux pour mieux comprendre ces civilisations précolombiennes que l'on croit avoir ou que l'on croit connaître, mais en fait, c'est ce que me confirmait.
Tout autour du temple, il y a encore beaucoup de richesses dans les sous-sols.
Et oui, et énormément, certainement, d'autres sites archéologiques.
Ah oui.
Mais il faut savoir que l'archéologie au Mexique est quelque chose d'assez récent et les fouilles archéologiques n'ont pas l'âge, si je peux me permettre,
oui,
qu'ont celles, par exemple, de l'Égypte que je citais précédemment.
Mais il y a une école française présente également au Mexique
pas seulement française, mais il y a une présence archéologique française. Il y a même des entreprises françaises qui subventionnent donc des fouilles.
Oui.
Et puis, il y a aussi, évidemment, des Américains, mais évidemment aussi des Allemands, des Italiens qui fouillent au Mexique. Mais le vivier mexicain est encore à découvrir. Et donc, on pourrait avoir beaucoup plus d'explications sur des sociétés qui demeurent encore assez inconnues.
Mmh. Mais qui sont quand même principalement de civilisation maya.
Maya pour le sud et aztèque, olmèque pour... En fait, si vous voulez un petit peu, et là c'est toujours très difficile de faire des parallèles, mais il y a eu plusieurs donc civilisations, plusieurs empires au
oui.
Mexique qui ont cohabité, voire qui ont été hégémoniques. Et lorsque Cortés arrive au Mexique, il y a un empire hégémonique, c'est celui des Aztèques. Et qui est un empire...
Qu'il a essayé de détruire, enfin pas plus qu'essayer,
qu'il a détruit. Et qu'il l'a écrasé. Mm. Et s'il l'a écrasé, c'est que cet empire aztèque était un empire très autoritaire, guerrier.
Solaire.
Et qui donc imposait sur les autres populations du Mexique un empire, oui, que l'on pourrait appeler assez dur. Est très autoritaire.
Oui.
Et donc, lorsque Cortés arrive au Mexique, on sait qu'ils sont très peu nombreux. Ils sont surprenants au sens propre du terme pour ces Indiens qui n'ont jamais vu de blanc, encore moins à cheval, encore moins avec des barbes. Et surtout, ils trouvent de très, très nombreux alliés prêts à se battre contre les Aztèques, plus que contre Cortés.
Parce qu'ils les ont pris pour des dieux ?
Oui, mais c'est aussi parce qu'ils les prennent pour des demi-dieux, mais aussi ils s'allient avec Cortés parce qu'ils veulent combattre ces autres populations, les Aztèques qui sont hégémoniques.
Oui.
Et c'est un petit peu les alliances que va avoir Cortés, car Cortés, lorsqu'il marche sur Mexico, il ne marche pas seul avec ses hommes, il marche avec d'autres populations indiennes qui se sont alliées à lui contre les Aztèques.
Oui, c'est tout un pan de l'histoire.
Et moi, quand je vous dis ça, je suis un néophyte, c'est-à-dire que je vous répète...
Non, mais ça nous donne une très très bonne idée.
Ce que j'ai cru lire intelligemment.
Oui, ça s'est passé au XVIe siècle, je crois.
Tout ça se passe, l'événement, donc... la fin de l'Empire aztèque et le début
et
donc,
de
la colonisation espagnole,
oui.
C'est le XVIe siècle.
Oui. Et puisqu'on parlait de la population, elle est aujourd'hui encore fortement métissée entre, vous disiez, indigènes ou autochtones, les Indiens et les populations européennes qui se sont installées au fur et à mesure. Au nord, beaucoup d'Américains, mais en général, plutôt hispaniques.
C'est une population métisse. Là, on revient encore dans le sud. C'est le sud qui est le plus indien. Là, on revient donc dans les états du Yucatán, du Quintana Roo, mais aussi du Chiapas et de Oaxaca, et une partie de l'état de Guerrero, qui est l'état où se trouve la fameuse ville d'Acapulco,
oui.
Et très connue, même au Mexique. Hein. Et
c'est donc, le Saint-Tropez, mais en plus grand.
C'est plus un Nice ou un Cannes, mais...
Oui.
On pourrait même plus le comparer à la Costa Brava en Espagne,
oui.
En termes d'architecture et de massacre, excusez-moi.
C'est
de
pas
cette
pour
côte.
Des âmes solitaires.
C'est une
solitaire.
Ville balnéaire où vont évidemment les Chilangos, qui est donc le nom des habitants de la capitale mexicaine. Et Acapulco se trouve à 2h30, 3h de la capitale. Donc, les fins de semaine, une bonne partie de la population de Mexico, la population nantie évidemment, va à Acapulco.
Oui.
Et donc ces populations, vous me parliez d'une population mixte, donc c'est un vrai mélange, hein, et on se trouve donc avec une variété physique et ethnique très très étonnante, très intéressante, et qui varie beaucoup selon les populations indiennes qui sont à la base de ce métissage.
Entre l'Indien très typé...
Parce que l'Indien maya est très typé, et ce que l'on va trouver beaucoup plus au nord du Mexique sont eux aussi très typés, mais très très différents.
Et quand même déjà beaucoup plus,
on pourrait dire,
occidentalisés
ou
européanisés.
C'est-à-dire que ce sont deux ethnies différentes, mais les Indiens que l'on connaît tous, parce que ce sont les Apaches des films de notre enfance,
oui.
Et les Mayas, donc qui sont des Indiens beaucoup plus, j'allais dire, physiquement, qui sont plus athlétiques. Et les Indiens mayas sont des Indiens beaucoup plus robustes, beaucoup plus larges. Et surtout, lorsque l'on se trouve sur les hauts plateaux, les gens sont comme on les retrouvera donc au Pérou ou dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas grands et avec des cages thoraciques très développées compte tenu de l'altitude.
C'est là où on trouve Emiliano Zapata qui régit son petit monde d'Indiens.
Mais lui est déjà un métis, oui. C'est déjà métis, Emiliano Zapata. Si.
On va peut-être quitter nos amis indiens, mais parler un peu plus généralement, par exemple, les principales ressources du pays. Parce qu'il y a des richesses minières, il y a de l'or. D'ailleurs, c'était une civilisation, comme je disais tout à l'heure, solaire, parce qu'il y avait beaucoup d'or déjà donc dans les premières civilisations précolombiennes. Mais il y a aussi d'autres ressources minières, je pense. Vous pouvez nous en dire un petit mot ou aussi parler des principales ressources en général, les industries par exemple?
Oui, là aussi, hein, je dirais le point de vue d'un néophyte, mais des grandes richesses minières, surtout de l'or, mais aussi beaucoup d'argent.
Ah oui, c'est
le Mexique a énormément
hauteurs.
Produit d'argent et ça reste encore dans quelques villes, donc ce qu'on appelle les villes coloniales du centre du Mexique.
Oui.
Donc, ça reste encore une industrie florissante. Et c'est de l'or et l'argent sont des métaux de bonne qualité. Selon les gisements, c'est de plus ou moins bonne qualité, mais l'or et l'argent mexicains sont de très bonne qualité, me dit-on. Hein.
Et
c'est une ressource importante.
Du pays.
Mais la ressource la plus importante, c'est le gaz et le pétrole. Le Mexique est un producteur important. Pas autant que d'autres pays, mais ça fait partie de ces richesses. Et on le trouve, donc, le gaz comme le pétrole, dans le sud, là aussi, du Mexique.
Pourtant, le pays connaît une intense émigration vers les États-Unis depuis des lustres. Alors, pourriez-vous peut-être nous éclairer brièvement sur la situation socio-économique du Mexique?
Les écarts... au niveau de l'échelle sociale, sont très, très importants. Les riches sont très riches et les pauvres sont très pauvres.
Oui, comme en général dans les pays du Sud.
Comme dans beaucoup de
sud,
pays.
Mais avec toutes ces richesses, on pourrait imaginer qu'il y a un développement intérieur.
Oui, mais il n'est pas suffisant pour absorber une main-d'œuvre très nombreuse. La démographie reste importante au Mexique. Et sans vouloir là non plus faire de parallèle, parce que c'est toujours très difficile, mais le Maghreb qui reste, et l'Algérie par exemple, qui est un pays riche, doté de véritables richesses, là aussi, de gaz et de pétrole, malgré tout, est un pays de forte immigration.
Oui.
Et là, on retrouve un petit peu le même schéma, c'est-à-dire pour une bonne partie de la population, la manière de sortir de l'ornière sociale dans laquelle peut se trouver un individu, l'Eldorado, si je peux me permettre, se trouve au nord.
Oui.
Et c'est donc d'aller travailler aux États-Unis et pour certains y rester et pour d'autres revenir pour ouvrir un petit commerce ou y construire sa maison.
Oui. En parlant d'Eldorado, on va faire une petite pause musicale, peut-être avec les mariachis, enfin quelque chose de très mexicain.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Nous continuons notre entretien avec Yves Kerouaz qui nous parle du Mexique et plus particulièrement de l'Alliance française à Mexico City dont il est le directeur. Après avoir fait ce survol, cette carte postale du Mexique, votre pays d'accueil, on va parler des alliances françaises au Mexique. Il y a une implantation importante au Mexique. Il y a combien d'alliances dans le pays ?
On va dire que c'est un des deux ou trois plus grands réseaux et d'établissements culturels qu'il y ait au monde. Donc le Mexique a 35 alliances françaises à peu près réparties de manière égale dans les États donc, de la République mexicaine. Et à Mexico, donc capitale, dans le district fédéral, il y a 5 centres de l'Alliance française.
5 centres pour les 22 millions
voilà.
d'habitants
nous sommes associés dans cette diffusion et cette promotion de la langue et de la culture française avec les deux autres établissements culturels qui dépendent directement de l'ambassade de France et de son service de coopération et d'action culturelle. Donc, un institut français de l'Amérique latine, l'IFAL, et la Casa de Francia, donc la Maison de la France. Ça fait en tout 7 centres donc, d'enseignement dans la ville de Mexico.
Oui. Et puis, il y a d'autres alliances dans d'autres villes dans le pays.
Et donc, nous avons après 34 autres alliances dans le reste du pays. Et je le disais tout de suite, plutôt bien réparties. Ça représente... bon an, mal an, plus ou moins 25 000 étudiants différents chaque année. C'est donc une activité importante et qui est à chaque fois, presque tout le temps, couplée à l'activité d'enseignement pour ces 25 000 élèves dont je viens de parler, et puis des activités culturelles à des rythmes plus ou moins soutenus selon l'importance de l'Alliance. Et souvent, l'importance de l'Alliance est relative à l'importance de la ville. Mais une ville... moyenne au Mexique, c'est 1 million d'habitants.
Et au moins une alliance dans une ville, comme par exemple,
citer quelques noms, on a évidemment une alliance française importante à Monterrey, cette ville qui se trouve au nord-est du Mexique et qui est la deuxième ville mexicaine, une ville très industrieuse, une ville économiquement forte. Là, on a une très belle alliance, mais on en a aussi une autre à Puebla, qui est une ville coloniale assez connue. On en a une autre aussi à Guadalajara, ville toujours difficile à prononcer, mais là aussi une ville importante. Là, ce sont des villes qui se trouvent au centre du Mexique, donc sur les hauts plateaux. Je vous rappelle que Mexico, la ville de Mexico, est à 2200 mètres d'altitude.
C'est pas toujours évident.
Il y a une adaptation. Il y a une adaptation.
Oui, nous n'avons pas parlé du climat. Ouais. Mais...
Et puis, après, il y en a d'autres aussi dans les villes comme Mérida, donc, qui est cette capitale du sud-est dans l'état du Yucatán. Il y en a une aussi à Oaxaca. Il y en a une autre à San Cristóbal de las Casas, au Chiapas. Une autre donc à Oaxaca, dans l'état de Oaxaca. Une à Acapulco, dont on parlait
oui,
tout à l'heure.
Donc un réseau vraiment très, très important, je vois.
Et
oui.
on en a aussi dans ces villes qui sont des villes frontalières comme Tijuana, Ciudad Juárez, et dans des villes qui sont plus proches encore de la frontière comme Saltillo ou Torreón. Et on en a aussi en Basse-Californie, je ne vais pas vous les citer parce
fastidieux. Comprends que vraiment l'implantation est très importante.
Et le travail donc de la coordination dont je suis le responsable est de coordonner donc l'activité aussi bien d'enseignement que l'activité culturelle de ces
établissements. Une tâche immense.
C'est une tâche immense, c'est ce pourquoi nous sommes assez nombreux et nous le faisons aussi avec l'appui de l'ambassade de France qui est notre partenaire privilégié mais aussi et surtout il faut rappeler, peut-être que les auditeurs le savent déjà, c'est que l'Alliance française est une association, et oui. En l'occurrence, c'est une association de droit mexicain. Les 35 alliances françaises au Mexique sont mexicaines. Quand nous travaillons évidemment avec donc l'appui de l'ambassade de France, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères, mais aussi et surtout avec l'appui des Mexicains.
Oui, avec qui le personnel, les professeurs
et qui
du
sont
pays.
Aussi dans notre conseil d'administration. Donc des bénévoles qui nous aident à mieux aborder la société mexicaine, oui. À mieux gérer nos collaborations avec les autorités culturelles mexicaines. C'est-à-dire que souvent, une alliance française, lorsqu'elle organise un événement culturel de culture française, elle s'adresse à son partenaire local afin de pouvoir organiser cet événement.
Oui.
Et aussi, elle...
Pour mieux correspondre au goût...
Exactement, à la réalité donc, de la programmation culturelle de la ville
bien
dans
sûr.
Laquelle il se trouve.
Oui.
Les alliances françaises sont aussi une force de proposition. Et on pourrait dire qu'elles font partie de ces dynamiques qui rendent la culture chaque jour plus contemporaine. Parce qu'elles sont extérieures à la société mexicaine tout en y appartenant.
Oui.
Elles ont une liberté que n'ont pas toujours les Mexicains. Et donc, on peut apporter des propositions d'événements culturels qui sont souvent plus contemporains, moins traditionnels que la ville ou les institutions auraient tendance à le faire.
Donc, vous apportez une ouverture d'esprit, donc, des
voilà,
mentalités.
C'est-à-dire qu'on est bien dans ce que vous annonciez au début de cette
le
émission,
dialogue
le dialogue des cultures.
Des cultures. Absolument.
Car c'est vraiment notre souci, nous, c'est d'être capable de présenter, par exemple, un photographe français contemporain et de le présenter à des photographes mexicains pour qu'ils puissent échanger. Pas seulement montrer, si vous voulez, notre culture comme
de
si
vitrine.
C'était voilà, une vitrine et comme si elle était la meilleure. Non, non, il faut que ce soit d'abord et avant tout un déclencheur pour la rencontre et
oui.
Le dialogue.
De cette manière, ça reste vivant et intéressant, bien entendu.
Évidemment,
oui.
Et toujours dans oui. Cette dynamique d'échange.
Mais justement, puisqu'on parle d'activités artistiques, quelles sont actuellement vos principales activités, vos manifestations culturelles?
Je parle de l'actualité immédiate. Nous allons avoir en octobre, nous participons à un des festivals, pour ne pas dire peut-être le plus grand festival culturel d'Amérique latine, qui est le Cervantino. Et donc, nous y présentons de la musique classique, mais aussi de la musique contemporaine avec des DJ qui illustrent musicalement le film « Que viva México
oui. ».
Cette part du patrimoine international et
oui.
Évidemment mexicain.
Oui.
Et donc, de jeunes DJ français mettent en musique ce film, qui est un film muet.
Oui.
Et on va montrer ça donc dans ce festival et aussi dans deux ou trois autres villes de la République mexicaine.
Oui, mmh. Oui, j'imagine qu'une fois que vous avez un événement important, il tourne, il fait
voilà,
une tournée dans
les principales villes.
Bien sûr, avec des partenaires locaux.
Quelquefois, avec la proximité des États-Unis, d'Amérique du Nord, on a par exemple des conférenciers qui vont en Amérique du Nord ou au Canada et qui viennent après au Mexique et qui peuvent aller après en Colombie.
Oui.
Donc, on est dans des dynamiques, là aussi, de tournée qui, quelquefois, dépassent les frontières mexicaines. Mais on essaye de plus en plus de travailler sur les arts visuels, plus particulièrement sur l'image. L'image patrimoniale, l'image moderne et l'image contemporaine. Donc, ça
l'image
va...
documentaire ou l'image...
Plutôt artistique
oui.
mais bon, les frontières, là aussi, ne sont pas toujours très bien définies. Et c'est vrai que quelqu'un comme Douaneau, qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler
oui.
Une photographie moderne,
important.
Mais presque patrimoniale aujourd'hui,
oui.
On ne sait pas si c'est artistique ou si c'est social.
Oui, bien sûr, c'est les deux, parce que
évidemment, c'est un
grâce
miroir
à ces
aussi.
Photos,
voilà.
On rencontre les individus français
voilà,
dans leur particularité,
voilà,
dans leur intimité, souvent, oui, oui, oui.
Et de la même manière...
Ça reflète magnifiquement
oui,
la France.
Voilà, c'est ça.
Intime,
donc, c'est un
oui.
Vrai reflet social et sociologique.
Oui, et artistique en même temps.
Et artistique
en
aussi.
En plus, la photo ouais. Devient vraiment un mode d'expression extrêmement en vogue.
Oui, jusqu'aux vidéastes. Donc, on peut présenter aussi des vidéastes. Parce que ça reste l'image aussi. C'est une image qui bouge, mais c'est ça
bien
reste
sûr.
Une image.
Et la littérature ou le théâtre, c'est plus difficile à exporter.
C'est plus difficile, mais en même temps, la littérature, et là aussi, avec le concours du Bureau du Livre de l'Ambassade de France, on arrive à avoir des auteurs qui viennent présenter leurs livres et aussi des auteurs dont les livres vont être traduits en espagnol.
Vous avez donc, enfin, l'ambassade organise un concours littéraire.
On va dire, c'est pas un concours littéraire, mais il y a des bourses à la traduction. Et aussi, il y a quelque chose qui est assez exemplaire aussi, c'est des cycles de conférences, donc, et principalement, c'était cette année des sociologues, donc, d'un groupe de sociologues adeptes de Bourdieu qui s'appelle Raison d'agir, et donc qui ont présenté leurs conférences au rythme d'une conférence tous les mois pendant toute l'année scolaire 2005-2006. Oui.
Je vous propose une deuxième pause musicale.
La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla para ponerla en el sombrero del famoso Pancho Villa. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar.
Ahí viene la cucaracha, ahí viene por el camino.
Ya se mira muy borracha con su botella de vino.
Ahí viene la cucaracha cayéndose en el camino.
Nous poursuivons notre entretien avec Yves Kerouaz qui nous parle du Mexique et plus particulièrement de l'Alliance française à Mexico, dont il est directeur. Maintenant, après avoir fait un survol du pays et des alliances françaises au Mexique, peut-être vous pouvez nous parler un peu plus spécifiquement de la vie quotidienne d'une alliance française au Mexique. Les méthodes d'enseignement, puisque chaque alliance française est un institut d'enseignement de la langue et de la civilisation et de la culture française. Et comment ça se passe pratiquement? Il y a combien de classes? Et les professeurs sont, d'après ce que vous avez dit, principalement mexicains, les professeurs de français?
Pas nécessairement. Par contre, on pourrait dire que c'est moitié-moitié en ce qui concerne les enseignants. On pourrait dire que la moitié des enseignants sont français, d'origine donc française, quelquefois vivant au Mexique depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, et aussi donc des professeurs mexicains. Par contre, aujourd'hui, on peut dire que l'immense majorité, si ce n'est pas la totalité des professeurs, ont une spécialisation donc en français langue étrangère, que nous appelons communément le FLE, et donc qui est l'enseignement donc du français en tant que langue étrangère, de la même manière qu'on enseigne l'anglais dans nos collèges et lycées comme une langue étrangère.
Par un professeur français, voilà. Oui, qui enseignerait
l'anglais. Et donc qui s'est spécialisé et qui a une maîtrise, oui, donc de français langue étrangère.
Mais qui serait mexicain.
Et qui peut être mexicain, qui peut être français, qui peut être canadien aussi, parce qu'on a, par exemple, de plus en plus de Québécois.
Ah, oui.
On a aussi des Belges, on a aussi des Suisses. Le Mexique est un pays de mosaïque aussi de nationalités.
En donc, tout cas, ils ne sont pas envoyés par les affaires étrangères par la coopération.
Non, il n'y a aujourd'hui aucun professeur au Mexique qui soit envoyé par le ministère des Affaires étrangères. Oui. Tous ces professeurs sont payés et recrutés donc par l'Alliance française elle-même.
Oui. Et qui est gérée comme une entreprise.
Et qui est gérée comme une entreprise culturelle. Parce qu'il faut savoir que donc l'activité, comme vous le disiez très justement, d'une Alliance française, c'est de donner des cours. Et c'est son activité principale. On l'appelle l'activité principale parce que c'est celle qui permet, en donnant des cours, donc en faisant payer un écolage, de faire tourner la machine.
Oui.
C'est-à-dire que c'est ce qui permet d'alimenter les caisses qui, elles-mêmes, évidemment, permettent de payer les professeurs et de payer tous les frais afférents à l'activité d'enseignement. Mais aussi, c'est ce qui permet souvent d'avoir des activités culturelles, d'avoir un lieu propre, c'est-à-dire la majorité des alliances au Mexique sont propriétaires de leurs établissements. qu'elles ont acquis, donc, avec leur argent, avec de l'argent qu'elles ont demandé à leurs étudiants, donc, pour les cours qu'elles donnaient, et les activités culturelles, donc, mais la médiathèque aussi, qui est un élément important de ce que l'on propose. Mais pour revenir aux cours d'enseignement, si vous voulez, on donne des cours
de langue.
Un peu comme Tintin, c'est-à-dire c'est de 7 à 77 ans.
Oui.
Et ça va donc du débutant, qui n'a jamais parlé un mot de français, à quelqu'un qui parle français comme vous et moi, et qui donc va venir pour des cours de civilisation, des cours de littérature. Donc c'est beaucoup plus de la culture générale. Mais l'immense majorité de notre population d'étudiants et vient pour apprendre la langue française. Elle a un niveau en général de débutant ou de moyen, mais jamais la population dont je parlais tout de suite, celle qui fait de la civilisation et de la culture française, est vraiment minime.
Petit pourcentage, oui.
Très, très, très faible aujourd'hui. Par contre, c'est une population jeune. La moyenne est entre 15 et 35 ans.
Et quelle est leur principale motivation pour apprendre le français ?
De plus en plus, la motivation est une motivation professionnelle, c'est-à-dire qu'ils en ont besoin soit pour leur travail, soit pour leur curriculum, afin de posséder une troisième langue. C'est la deuxième langue étrangère après l'anglais, qui évidemment est une langue incontournable au Mexique comme première langue étrangère. La deuxième langue, c'est le français.
Ah, c'est la deuxième langue.
Oui, oui.
Oui. Bien avant l'allemand, j'imagine.
L'allemand est très présent. Il est très présent et ça dépend aussi des villes. Par exemple, à Puebla, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une usine Volkswagen. Eh bien, l'allemand est très présent.
Et l'italien ?
L'italien est très, très loin derrière.
Oui.
Ouais. Et par contre, il y a une langue qui est en train de prendre de plus en plus d'importance, c'est le chinois.
Bah, bien sûr, oui.
Avec pour des raisons commerciales.
L'explosion économique de la Chine.
Évidemment, évidemment.
Cela s'impose pour des raisons économiques.
Et donc, l'activité d'enseignement d'une alliance est primordiale. Aujourd'hui, vous me posiez la question des méthodes. Aujourd'hui, ce sont des méthodes que l'on appelle participatives. C'est-à-dire que, par contre, là, on est très loin de la manière d'enseigner les langues étrangères en France. On est dans des situations qui sont beaucoup plus favorables. On a des groupes qui ne dépassent jamais 15 élèves, ce qui permet donc une participation active de chacun des étudiants. Et quand je dis participation active, c'est-à-dire que les étudiants parlent plus qu'ils n'apprennent ou plus qu'ils n'écoutent le professeur. Ils sont en train de participer, c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle des méthodes communicatives, où on favorise beaucoup la communication afin que les gens très rapidement, nos élèves très rapidement, puissent utiliser leurs connaissances, puissent communiquer.
Par des méthodes audiovisuelles,
alors, principalement. Ce sont des méthodes audiovisuelles, mais il y a toujours un livre. Il y a maintenant beaucoup plus un CD, voire un DVD qui va avec la méthode.
Pour rendre la chose plus ludique.
Oui, plus ludique et plus adaptée, plus moderne.
Bien sûr.
Et on est en train de mettre en place de manière pilote dans 2-3 alliances donc de la République mexicaine. On est en train de mettre en place ce que l'on appelle aujourd'hui couramment le multimédia, c'est-à-dire un enseignement assisté par ordinateur.
Oui, ce qui n'empêche pas d'apprendre le conditionnel, le subjonctif
inévitablement.
Et autres réjouissances de la langue.
Inévitablement. Oui, oui, oui. Inévitablement.
Bien sûr, il y a une motivation pour une promotion sociale, mais est-ce qu'il y a aussi des motivations de prestige, de culture ?
La langue française, même si aujourd'hui on ne peut pas dire que ce soit sa principale caractéristique, elle reste cependant une langue qui pendant de nombreuses décennies a été apprise par les hautes classes de la société et ça reste aussi, et malgré des besoins quelquefois purement professionnels, elle reste une langue considérée comme élégante, comme une forme de plus social. Ouais.
Par ce biais, est-ce que les étudiants dans vos alliances que vous fréquentez s'intéressent aussi à l'histoire de la France, à son glorieux passé ?
Alors, si vous voulez, c'est là où tout le travail aussi bien du professeur que des gens qui se trouvent à la médiathèque, on entend aujourd'hui par médiathèque, en fait c'est la bibliothèque, si vous voulez, de l'Alliance, mais on y trouve toute une série de documents qui dépassent de loin le livre, le roman classique, et donc c'est tout le travail de la médiathèque et aussi des professeurs, c'est d'être capable, là encore, de manière ludique, de présenter l'histoire de la France, l'histoire passée comme l'histoire actuelle.
Oui, et de rendre la chose plus attractive.
Plus attractive et plus réaliste aussi.
Oui.
Moins scolaire.
C'est si une voulez... des forces de frappe pour défendre les valeurs culturelles et la langue.
Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, pour résumer l'activité d'enseignement et la promotion, donc ce qu'on appelle la promotion du français, ce que nous voulons éviter, et je crois que nous y arrivons assez bien, c'est d'avoir une dynamique scolaire. On veut que ce soit une dynamique ludique, une dynamique communicative, qui permette au bout de deux ans et demi, de s'exprimer presque couramment en français, à raison de deux sessions par semaine.
Oui.
Raison deux fois une heure,
oui,
et demie,
oui,
trois heures par semaine.
Sur une durée d'études.
Sur une durée de, on va dire, deux ans et demi.
Ah oui.
Oui.
C'est vraiment assez assidu, enfin,
oui,
comme,
oui,
comme
tout à fait. Oui, oui.
Apprentissage. Oui.
Mais on a un niveau moyen qui permet de s'exprimer de façon presque courante. Oui,
oui. Oui. Mm-hmm. Et ça leur ouvre d'autres perspectives dans la mondialisation culturelle.
Par exemple.
Écoutez, pour terminer, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre entretien, mais vous avez peut-être un vœu, un souhait ou un message à nous communiquer sur l'antenne de Canal Académie que vous voudriez diffuser.
Oui, je souhaiterais donc,
oui,
que l'action de l'Alliance française, qui s'inscrit dans l'action des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, avec toutes ses composantes, que ce soit Culture France, que ce soit les organismes de la francophonie, je crois qu'il faudrait que les Français qui sont en France réalisent d'abord l'importance de cette action. C'est une action,
oui,
qui est très, très importante.
Mais et nous sommes là à Canal Académie pour contribuer,
oui, et
modestement
et donc,
mais, à cela.
Et donc j'aimerais vraiment que les Français en soient conscients, parce que c'est un des atouts majeurs de notre politique étrangère, et pour un coût qui, somme toute, est assez bas. Et je crois qu'il serait important qu'on n'aille pas, pour des raisons de restrictions budgétaires qui planent sur toute activité, quelle qu'elle soit, que l'on n'aille pas amputer ou faire disparaître cette action donc, de promotion de la langue et de la culture à l'étranger, parce qu'elle est, je crois, capitale. Et l'Alliance française est un des acteurs les plus dynamiques,
voilà,
mais aussi un des plus autonomes. Il faut savoir que les alliances françaises au Mexique s'autofinancent à 100%.
Oui, c'est remarquable.
Et donc l'aide que nous apporte la France ou d'autres partenaires, comme les entreprises privées françaises, est aussi capitale parce qu'elle nous permet de mieux promouvoir.
Oui. Cela ne peut que mieux profiter au rayonnement,
voilà,
de la France dans,
exactement,
son ensemble, et même à chaque Français dans l'Hexagone, parce que finalement, c'est un tout et c'est une influence qui, évidemment,
à
se reflétera sur le moral
et
en
à des
France.
Retours. À des,
oui,
retours.
Oui. Écoutez, je vous remercie infiniment et j'espère,
c'est
vous retrouver peut-être très bientôt sur nos antennes de Canal Académie. Et bon retour au Mexique.
Merci.